Bonjour à tous et nous revoici pour un nouvel épisode de La Quête. Donc je suis content de vous retrouver après quelques épisodes avec des invités. Me revoici en solo et en retour sur La Quête après l'été. Évidemment, c'est une période où on joue beaucoup au golf, ou en tout cas on essaye entre les vacances. Avant de commencer ce nouvel épisode et revenir sur mon été et faire un petit point avec vous sur l'avancée, je voulais remercier certains d'entre vous qui m'ont laissé des avis sur Apple Podcast. Donc merci à Paul Tuguèche, merci aussi à Ourson2240 qui me suit toujours et je le remercie pour ses gentils conseils. Et évidemment, il a écouté le podcast avec Laure Hélène, c'est super. Merci aussi à Yanton. C'est vrai que parfois on a des petits problèmes de son, donc je m'en excuse par avance. Si vous avez un site web, je ne sais pas si vous avez envie de me sponsoriser sur du son, etc., pour m'aider et pour que finalement les podcasts soient plus audibles, n'hésitez pas à me contacter, c'est très simple. Suivez-moi sur mon Instagram, PlayBetterBeSmarter, et puis je serai heureux de collaborer avec vous et du coup de proposer un meilleur son. Donc voilà, merci encore à tous pour vos encouragements. Je suis très très heureux de vous retrouver après une petite pause. Petit retour aussi et toujours sur notre premier partenaire, The Grind, donc qui est l'application qui permet de rentrer vos scores et d'avoir un vrai suivi. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 25% de réduction sur votre abonnement annuel. Avec le code promo LAQUETTE tout en majuscule 25. Pour cela, il faut souscrire sur le site internet directement. Ne passez pas par l'application. Voilà, n'hésitez pas à y aller. Franchement, ça vaut vraiment le coup. En plus, maintenant, ils donnent des codes promo sur pas mal de sites web, sur le textile ou sur d'autres sites pour améliorer votre swing. Ils ont vraiment amélioré ça. Le GPS est vraiment top. Donc moi c'est vrai que c'est une application que j'adore et surtout sur les stats en fait où vous pouvez sélectionner en fonction des parcours que vous jouez mais aussi en fonction des dernières dates, vos statistiques et en regard de ce que vous allez viser comme objectif. Donc ça vous donne vraiment une visibilité sur comment et quoi améliorer sur votre jeu. Donc voilà, me revoici après un été riche puisque maintenant, on va lâcher direct, même si je ne suis pas encore single handicap, ça y est, je suis passé 11,4 et donc j'ai le droit de jouer des blancs comme les grands. Donc ça, c'est vraiment déjà un premier accomplissement pour moi, mais ça aussi a été une vraie source de stress. Et je vais raconter pourquoi c'était une source de stress et comment j'en suis arrivé là. Donc j'ai eu la chance de jouer trois compétitions. Dans lesquels j'ai fait des scores très intéressants. Un premier 88, ensuite un 84 et un 85. Le 88 et le 84 étaient sur le parcours de la Frelonnière à Rennes. C'était assez intéressant puisque c'est un parcours qui n'est pas le parcours sur lequel je joue tous les jours, mais qui est un parcours que je connais plutôt bien, qui est aussi assez étroit, où en fait il y a quelques par 4 qui sont plutôt courts, ce qui est assez tentant pour sortir un drive ou un broie 3, donc il faut essayer d'être un petit peu raisonné. Et c'est très intéressant puisque la première fois où j'ai joué le 88, j'ai un peu perdu la tête sur le trou numéro 18. En fait, j'ai pas pris les bonnes informations et j'ai voulu tenter une approche de green alors qu'il y avait un hors limite. Ce qui m'a coûté tout simplement un plus 5. Donc je m'en voulais un peu parce que c'était une erreur d'inattention et quelque chose de facilement évitable. Donc un petit peu ce que j'ai retenu moi de cet épisode-là, ça a été ne pas tenter de coups impossibles. En gros, j'ai essayé de passer avec mon fer 7 par-dessus des arbres et entre ces arbres et le green, il y avait un hors limite. Donc finalement, quand on est là un peu pour baisser son index, moi ce que j'ai retenu, c'est déjà de une, prendre les informations, qu'est-ce qu'il y a derrière l'obstacle, et de deux, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que si j'avais finalement fait mon petit layup, j'aurais largement fait, allez, maximum, même si on va dire que je fais un double bogey, vous vous rendez compte, versus le plus 5, donc là, ça, je perdais 3 coups, au lieu de jouer 88, je jouais 85. Donc ça, c'est assez évocateur. Et donc ça a été aussi très très formateur pour moi. Donc derrière ce qui s'est passé, lors de la seconde compétition dans laquelle j'ai joué les 84, je me suis pas du tout laissé piéger par les trous courts. Je connaissais les obstacles, je connaissais les hors-limites et j'ai suivi un plan de jeu strict. Alors, quand je parle de plan de jeu strict, c'est maintenant et je pense qu'on le voit de plus en plus puisque l'aspect préparation et stratégie arrive. Comment je prépare mon parcours? Je prépare seulement mon parcours sur les tee de départ, puisque après finalement, c'est jamais vraiment ce qui va se passer qui arrive. On met rarement, ou alors quand on met 14 drives ou sur la piste ou 14 mises en jeu sur la piste, c'est vraiment qu'on va faire notre record. Donc moi ce que je fais, c'est que je vise on va dire un endroit, je prévois mon club de départ et je m'y tiens. Et après, je vois ce qui se passe en fonction de si ma mise en jeu est plus ou moins réussie pour m'adapter. Et je suis très content, puisqu'en fait, cette façon de fonctionner m'a permis de jouer 84 donc, au golf de la Frelonnière. Donc ça m'a vraiment bien fait baisser l'index. À ce moment-là, c'est le moment où je suis passé 12. Et donc il me restait encore un parcours à faire pour essayer de d'atteindre les 11-4 et puis commencer à partir des blancs parce que finalement dans cet objectif de single handicap la première étape ça va être de partir des blancs et après des blancs vous voyez il y a encore du chemin là je suis 11-4. Il faut que je perde encore beaucoup de points, quoi. Presque 1 point, 1 point, 1 point 6, 1 point, 1 point 5 pour passer de 9,9. Bon, je ne sais pas trop comment ça se passera. Là, à l'heure où j'enregistre, on est le 3 octobre. Il me reste techniquement 4 mois pour passer. Le souci, c'est qu'il y a moins de compétitions de classement. Donc je ne sais pas si je vais y arriver, je vais tout faire pour essayer de glaner et de trouver des compétitions pour descendre. Donc ça c'est intéressant. La deuxième compétition dont j'ai parlé un petit peu, c'était un petit 85. Alors là j'étais vraiment très très content parce que jouer 85 en fait à mon golf Saint-Jacques. J'étais excessivement content, même si c'était toujours des jeunes, hein, ça c'était encore avant. Mais là, mon jeu était vraiment en place. Et une fois de plus, comme je vous l'ai dit avant, en fait, j'avais vraiment une stratégie sur mes mises en jeu. Qu'est-ce qui se passait après mes mises en jeu? Je réfléchissais une fois que ma balle était sur le fairway, ou à droite, ou à gauche. Qu'est-ce qui se passait pour que j'arrive à atteindre ma carte de 85. Donc quand j'étais sur le fairway, évidemment, bah, je continuais, je jouais le club avec la distance. Mais par exemple, je prends le trou numéro 4 où je fais un double bogey, où je me retrouve complètement embarqué dans les arbres à gauche. Bah, j'essaye de me recentrer sans faire un coup impossible ou un coup que je ne maîtrise pas. Lors de ce parcours, c'est ce qui est un peu frustrant, c'est que je joue quand même encore très bien et qu'au trou numéro 16 je fais un double par. Et ça c'est des choses qui arrivent. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait je drive un peu à gauche dans les hautes herbes. Il y a un hors limite, faut savoir, à gauche, à Saint-Jacques, sur le trou numéro 16. Donc je mets une deuxième balle. Évidemment, la deuxième balle est toujours parfaite, donc plein fairway, et donc c'est là où finalement Encore là, j'ai pris une leçon, c'est vraiment de m'engager à 100% dans le shot. Et en fait, ce qui s'est passé avant, c'est que je ne me suis pas engagé. Ce qui s'est passé après, c'est que je retrouve ma balle. En plus, j'ai la chance de la retrouver. En deux, je la trouve dans un lie qui est pas si pire que ça. Et là encore, je m'engage pas, je retombe dans les herbes, je perds deux coups, je rejoue un autre coup où je suis court, parce qu'en fait, mon ego n'a pas été posé. Et je me retrouve dans le bunker, etc. Et je sors avec un 8. Donc le bilan a été dur sur ce coup-là, mais je joue quand même 85, donc j'étais quand même super content. Finalement, ce sont des choses qui arrivent. On a tous, à un moment dans notre carte, un trou où on va craquer. L'objectif, c'est de craquer un minimum. Et pour le futur, ce que je retiens de ce parcours-là, c'est être engagé à 100% dans les coups. Parce que si on n'est pas engagé à 100%, on risque l'éclat à gauche, à droite, et puis l'obstacle. Et puis vous savez quoi? C'est pas grave, ça arrive d'être dans des obstacles. Ce qui est important aussi, et ça c'est un autre point sur lequel je veux insister, et qui m'a beaucoup aidé quand on regardait mes cartes avec Erwan, mon coach, c'est qu'est-ce qui se passe quand je loupe? Qu'est-ce qui se passe quand je fais des cartes un petit peu catastrophiques? Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des trous où je loupais un premier coup, et derrière, au lieu de me recentrer, je loupais un deuxième coup. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé un coup qu'on doit tous avoir, il me semble, dans notre sac de golfeur. C'est un coup un peu bas, un peu, je dirais, punché, qui va vous permettre de faire entre 50 et 100 mètres. D'accord? Qui va vous permettre de sortir de sous les arbres, qui va vous permettre de juste avancer et de vous recentrer. Et finalement, quand on se recentre, même si on est sur un par 4, je veux dire, on n'est pas à l'abri que votre troisième coup, il soit, je sais pas, à 3 mètres sur le green du drapeau. Et derrière, rien ne nous interdit de rentrer le putt et de sauver le par. D'accord? Même si une fois de plus, on doit viser ce bogey. Ce qui est important, c'est de se dire, je fais des bogeys. Si on fait des bogeys sur tous les trous, il y a des moments où on va faire des pars et donc du coup, on va scorer. Donc vraiment, ça, c'est peut-être le petit plus, j'ai envie de vous dire, c'est ce qui m'a permis et ce qui me permet là maintenant en fait d'être beaucoup plus régulier dans mes cartes catastrophes. C'est assez marrant de dire ça. Mais c'est ces petits coups où je me recentre et derrière je suis content, je suis moins énervé parce que je suis pas de nouveau dans un bunker, je suis pas de nouveau 3 mètres devant dans les herbes. Même si ça m'arrive, ça m'arrive, c'est pas grave, c'est un nouveau coup. Donc voilà. Donc ça, c'était un petit peu les deux nouvelles cartes qui m'ont permis d'atteindre ce handicap de 11-4 et donc d'avoir le droit de jouer des blancs. Et donc là, des blancs, il a fallu prendre son courage à deux mains. Donc pareil, inscription à une compétition. J'ai encore joué à la Frelonnière parce que malheureusement, mon golf Saint-Jacques avait un petit problème de green, donc je suis allé jouer à la Frelonnière. Et là, 93. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Plein de choses. La première chose, ça a été une nuit précédant le tournoi, un peu agité, pas très bien dormi, il faisait chaud. La seconde, un peu de stress. Il faut se l'avouer, quoi. Enfin, il y avait un peu de stress, quoi. Et c'était pas forcément facile de le gérer, quoi. Je sais pas. On a tous eu, à un moment donné, on a tellement attendu ça, on était content. Donc j'ai peut-être mis un peu trop d'attente par rapport à ça. Et ensuite, sans vouloir me donner d'excuses, mais on a eu des orages incroyables sur un tiers du parcours. Et quand je vous dis incroyable, c'est que le parcours, si vous voulez, sur quelques trous, était gorgé d'eau. Et notamment, par exemple, au trou numéro 2, je loupe un chip parce que je suis dans une zone où c'était clairement trop mouillé. Grosse averse au tee numéro 3, je précipite mon fer 5, je me retrouve dans les châches à gauche, limite injouable. Donc voilà. Donc finalement, 93, bon, bah c'est pas incroyable, j'ai rien perdu, j'ai rien gagné. 21 sur une première partie, bon, c'est des choses qui arrivent. J'ai aussi tenté un coup complètement stupide à vouloir passer par-dessus les arbres, mais parce que je savais que ma carte était plantée, donc je voulais voir si j'étais capable de le faire. Une fois de plus, comme on est en Stableford, de toute façon, on met une croix et voilà. Donc, tout ça, ça m'a fait bien prendre conscience de ce qu'il me reste à faire pour aller jouer, bah, finalement, breaker les 90 des blancs, hein, parce que en fait, ça va être un nouvel objectif. Quand on recule, on reprend quelques points, heureusement. Et voilà. Pendant ce break d'été aussi, hein, finalement, il y a eu un break aussi. Et ça, c'est un aspect aussi fondamental, j'ai envie de dire, parce que finalement, quand on a la passion du golf, parfois, on est complètement lassé. C'est vrai que ça nous arrive tous d'avoir des moments où on se dit j'en ai marre, j'arrive à rien, etc. Et bah, peut-être que dans ces moments-là, prenez-vous un break, quoi. Pendant, je sais pas, 5 à 7 jours, bah, vous n'allez pas au golf. Vous faites autre chose, vous sortez, vous partez en week-end avec votre conjoint, avec votre conjointe, et derrière, vous êtes tranquille et vous pensez moins golf. Parce que moi, ce qui s'est passé quand j'ai coupé cet été, j'étais un peu fatigué, je restais sur des cartes un peu moyennes. Et ben, derrière, j'ai eu une envie de jouer qui était incroyable. J'avais une surmotivation, je me disais, allez, c'est bien, t'as continué de travailler, et j'avais envie de retrouver mes clubs. Sans vous cacher évidemment qu'il y a eu une petite perte de repères quand même, hein, parce qu'avec cette phase d'arrêt, on perd certaines choses, notamment, à ma grande surprise, c'était le wedging. Le wedging, j'ai un peu une perte de rythme, et c'était pas facile à gérer parce que je trouvais que j'étais vraiment bien sur le wedging, j'adorais mes coups de wedge, et derrière, bah, c'était plus là. Mes coups étaient moins là, en fait, en tout cas. Au lieu, on va dire, d'en louper 1 sur 3, bah, j'en loupais 2 sur 3. Donc, très frustrant parce que finalement, on loupe souvent nos greens. Et derrière, bah, du coup, si on loupe les greens plus on loupe l'approche, bah, derrière, vous vous retrouvez avec des doubles très, très, très rapidement, voire pire. Donc, ça aussi, ça a été peut-être le point négatif de la phase d'arrêt, etc. J'ai continué à m'entraîner et en fait par rapport à ça aussi, ce qui s'est passé, c'est que, et vous l'avez peut-être vu si vous avez suivi mes réseaux sociaux, j'ai changé de driver et je me suis acheté un bois 3. Alors pourquoi j'ai changé de driver? Malheureusement, mon driver avait un shaft qui était trop rigide pour moi. On s'en est aperçu lors d'une séance de fitting. D'ailleurs, alors petit aparté, mais moi je vous invite vraiment à aller faire un fitting. Alors peu importe la marque, multimarque ou bien une marque, la marque que vous aimez, parce que très souvent on a des clubs qui sont pas du tout adaptés. D'accord? J'en discutais avec mon fitter qui est Simon de chez Titleist, et je le remercie d'ailleurs parce qu'il a fait un travail incroyable avec moi sur cette séance de fitting. Mais en gros, j'ai taper des balles avec mon driver. Après, j'ai tapé des balles avec un nouveau driver et un nouveau shaft. Et ce qui s'est passé, c'était que la distance au carry avec le nouveau driver, c'était la distance totale de mon ancien driver. Et du coup, moi, je comprenais pas. Il me disait, ah, mais c'est ton shaft qui est trop rigide, etc. Tiens, change de shaft, etc. Alors évidemment, après, il a fallu une petite adaptation. Ça, c'est comme tout, surtout quand on change un club comme le driver, on a pris des habitudes. On a nos repères. Ça a été un petit changement, surtout qu'aussi, en fait, le shaft était moins long, donc je me suis retrouvé à quelque chose de beaucoup plus court. Mais je suis hyper content maintenant et je retrouve mon drive. Et surtout, en fait, j'ai une distance que j'avais pas avant. Alors, quand je jouais des jeunes, c'était bien parce que du coup, je pouvais passer certains obstacles. Bon, ben là, maintenant, on recule. Certains obstacles sont de nouveau en jeu. Mais du coup, comme j'ai un bois 3 que je n'avais pas avant, maintenant, j'ai un autre coup dans le sac. Donc pensez toujours à ça. Il ne faut pas abuser dans le changement de sac. D'ailleurs, de mémoire, il me disait l'utilité de changer tous les 5 ans à peu près. Voilà, au bout de 3, entre 3 et 5 ans, les clubs commencent à être un peu dépassés. Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il y a de sûr, c'est que si vous avez des clubs de plus de 10 ans, moi je vous recommande d'aller essayer de changer. Parce que vraiment, vous allez voir la différence. Donc du coup, il y a eu aussi ça qui s'est passé cet été. Il y a eu ce petit ajustement dans mon matériel, mais qui va aussi finalement avec bah, maintenant cette nouveauté pour moi de jouer des blancs. Donc je suis plutôt impatient. J'ai fait finalement quelques parties. J'ai fait aussi 2-9 trous des blancs. Pareil, bah, là, on a un peu plus de distance. Et la nouveauté aussi des blancs, sincèrement, c'est que on ne peut pas louper de mise en jeu. C'est simple, si vous loupez une mise en jeu des blancs, vous êtes déjà 20-30 mètres derrière. Donc du coup, le deuxième coup, s'il est loupé, enfin le premier coup, s'il est loupé, vous avez un deuxième coup de recentrage qui est vraiment pas facile, où il faut faire encore de la distance. Et donc du coup, votre troisième coup va être plus long. Donc vraiment, ce que j'ai pu observer, et ce sur quoi j'essaie de travailler, et ça va être un petit challenge, c'est j'ai cette impression qu'on peut encore moins louper la mise en jeu des blancs. Donc, je sais pas, partagez avec la communauté, avec moi lors du post Instagram, si vous aussi, si vous jouez des blancs, vous avez le même ressenti. Après, peut-être qu'on a aussi, et je pense qu'on a le même ressenti au début, quand on commence à être finalement dans l'assurance et qu'on prend un peu d'assurance des jeunes, parfois on veut forcer sur notre driver, on veut forcer sur notre bois 3, et on loupe beaucoup, et derrière, ben, c'est plus compliqué de récupérer la mise. Donc voilà, partager un petit peu ça, c'est intéressant, mais voilà. Ce que nous avons aussi, ce que j'ai fait cet été, je ne me suis absolument pas arrêté de prendre des cours. Alors ça, c'est un petit peu ma marotte, hein. Vraiment, il n'y a pas un seul épisode, je pense, où je ne parle pas de mes échanges avec Erwan, que vous connaissez sûrement, et je vous invite d'ailleurs à toujours écouter son podcast, Eagle, R1 Golf Pro, sur Instagram. Parce que ce qu'on a fait cet été, j'ai fait un parcours accompagné avec lui. Donc déjà mise en situation, il voit comment je joue. Ça c'est hyper 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 intéressant pour moi parce que lui il me fait un retour sur mon jeu et aussi le second effet c'est de le voir jouer, de voir comment il manage lui son parcours. Donc ça, c'est hyper, hyper, hyper intéressant. Donc moi, je vous conseille vraiment aussi de temps en temps de prendre un parcours accompagné avec un pro. Même si c'est que 9 trous, finalement. C'est super. Imaginez, dans l'année, vous prenez même ne serait-ce que 2 cours. Un cours classique et un parcours accompagné. Franchement, vous allez voir, vous allez ressentir beaucoup, beaucoup, beaucoup de progression. Donc ça, c'était vraiment... ça s'est pas arrêté. On a continué de travailler. Sur le contact de balle. Et ce qui est assez marrant, là, pour ceux qui ont vu ma dernière story et mon dernier post sur Instagram, en fait, on a un peu lâché, on a un peu moins bossé le contact. Pam, Trackman, mon chemin est reparti en travers. Donc, hop, on repart sur les basiques. Et parce qu'aussi, je me suis arrêté 10 jours. Et donc, voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on est revenu sur des basiques. On a refait l'exercice des 3 balles dans lesquelles il faut absolument pas taper. Il y a aussi un autre exercice hyper intéressant où en fait on met une baguette au niveau des fesses à peu près 30-40 cm et on doit absolument pas toucher la baguette avec le club. Donc ça, c'est des petits tips, en tout cas, qui m'aident moi. Je ne sais pas si vous, ils vous aident une fois de plus. Je pense que de temps en temps, prendre un cours avec un trackman et avoir vraiment des datas sur votre swing, ça va vous permettre vraiment d'avancer. Donc ça, c'est vraiment hyper important et continuer de travailler finalement toujours sur ces points faibles. Et en fait, je me suis aperçu que je m'étais vraiment amélioré sur le contact de balle, mais qu'on travaillait beaucoup le swing justement sur le driver, sur le bois et sur les fers, et que j'avais du mal en fait sur les wedges. Et en fait, j'ai réalisé ça a posteriori parce que je swingais beaucoup sur le feeling au wedge. Et du coup, ce qui peut-être explique aussi, c'est loupé. Et donc là, lors de mon dernier cours, on a refait pareil et on a revu la mécanique, on a revu la posture. Et derrière, je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais je suis en train de le retravailler et on va voir. Puisque normalement, je fais une compétition ce dimanche. Alors, une compétition de classement. Et pour rien de vous cacher, je pensais atteindre des objectifs que je m'étais fixés, c'était de jouer un Grand Prix, le Grand Prix de Sissé-Blossac. Mais cette année, c'est incroyable, ils ont eu énormément de demandes et un handicap juste limite pour rentrer. Je suis sur liste d'attente et il y a de grandes chances que je ne rentre pas puisque sur la liste d'attente, il y a des moins 0,2, moins 0,3 et qu'a priori, le ticket d'entrée se fait pas par l'ordre d'inscription, mais par les index. Donc, je suis mitigé, c'est une petite déception d'un côté, et puis d'un autre côté, peut-être que je ne suis pas encore complètement prêt, et qu'il faut que je continue de travailler, de jouer des blancs, et que les Grands Prix, ce sera pour l'année prochaine. Bon, c'est la vie. En tout cas, je suis très content parce que là, je retrouve beaucoup de plaisir, j'ai vraiment envie de jouer, c'est un plaisir d'aller à l'entraînement. En plus, on a une super barrière saison, donc vraiment, il n'y a pas grand-chose à redire sur ça. Donc voilà. Donc finalement, ça a été quand même une belle saison entre guillemets, assez intense. Avec là, je prends les retours, mais globalement, en juillet, j'ai joué pour vous dire. 2 fois 9 trous, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 18 trous. Donc c'est plutôt très intéressant. Je suis assez content. Il y a eu un petit creux en juillet. J'en avais peut-être un peu parlé sur ma virée parisienne avec Fontainebleau. Et le golfe de Saint-Nom-la-Bretèche. Je pense que j'avais mal géré, on va dire. J'arrivais à un pic où j'étais fatigué, fin d'année, plus beaucoup de golf. Bon, il aurait fallu que j'aie du break, peut-être jouer une semaine avant ou une semaine après. En tout cas, une fois de plus, j'ai beaucoup appris de ces moments-là, comment gérer le stress, comment gérer aussi des parcours d'un niveau un peu supérieur, hein, en tout cas dans le setup, hein, parce que vraiment c'était autre chose. Mais toujours, on retourne au travail et on apprend. Qu'est-ce que j'apprends? Finalement, à la fin de chaque parcours, quand je reprends ma carte, j'essaye de me donner une chose que je ne vais pas refaire sur le prochain parcours, ou entre guillemets, une leçon. Ou essayer de retenir les coups qui m'ont coûté des points. Et ainsi, je ressors et je me dis, bon, très bien, je suis content, je m'étais mis un objectif. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je l'ai atteint? Je ne l'ai pas atteint? Si je ne l'ai pas atteint, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé, comment je peux le corriger? Et vraiment, en fait, et c'est marrant parce que lors de la préparation, quand j'ai vu un petit peu le déroulé. Finalement, je joue 88, après je joue 84, après je joue 85, et en fait j'ai appris de ce 88 pour pouvoir jouer 4 coups de moins Et ensuite, j'ai appris du 85. Bon, et je joue 93 des blancs. Mais là, j'ai vraiment hâte parce que si je rejoue, ce sera le même parcours, de repartager avec vous ce qui s'est passé. Ou alors, qui sait, une excellente nouvelle et je serai dans le champ du Grand Prix. Dans tous les cas, s'il y a Grand Prix, je pense que je ferai un épisode un peu exceptionnel pour partager avec vous ce qui s'est passé, peut-être même entre les deux. Donc voilà. Donc c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie une fois de plus d'être toujours aussi nombreux à m'écouter, à nous écouter, hein, puisque les écoutes cet été ont été vraiment très très bonnes et je vous remercie à la fois sur le podcast avec Mike qui était caddie sur le DP World. Vraiment un super podcast. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite vraiment à y aller. L'épisode avec Laure-Hélène Gros sur l'intérêt d'aller jouer des pro-ams, qu'est-ce qui se passe en pro-am. Vous avez aussi le partage de son expérience qui est vraiment super. Donc vraiment, allez-y, allez écouter cet épisode. J'espère aussi qu'on refera un épisode avec Laure-Hélène. N'hésitez pas si vous avez des questions à lui poser peut-être ou des thèmes à me les suggérer, pareil, sur Instagram ou m'écrire si vous voulez. Vous pouvez toujours me contacter alors sur Instagram, sur la page Playbetter, BeSmarter. Et enfin, n'oubliez pas le code promo pour The Grind. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore d'application pour noter vos scores, la quête 25. Voilà, je vous souhaite un bon golf. Je vous remercie de toujours m'écouter, d'être toujours là à mes côtés. Et je vous dis à très bientôt.